contretemps. Une émission de Canal Academy, Virginia Crespo et ses invités.
Bonjour et bienvenue sur Canal Academy et dans le studio de Temps contre Temps, une émission qui met en contact académiciens et étudiants. Aujourd'hui, Temps contre Temps a le grand plaisir de recevoir Claude Dulon-Saint-Denis, historienne, élue à l'Académie des sciences morales et politiques en 1995 dans la section Histoire et géographie. Claude Dulon-Saint-Denis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chartiste, archiviste paléographe, licencié ès-lettres, ancien élève de l'école pratique des hautes études. Vous avez également occupé des fonctions à la direction des bibliothèques, à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, ainsi qu'à l'Alliance française. Vous avez été conservatrice de la bibliothèque Jean Lebaudy. Vous avez fait paraître 15 ouvrages, notamment sur la vie quotidienne des femmes au grand siècle, sur les amoureuses du grand siècle, la vie quotidienne à l'Élysée au temps de Charles de Gaulle, et puis alors sur de grands personnages historiques tels que Mazarin, Louis XIV, Anne d'Autriche, Marie Mancini. Avec vous, sur Canal Academy aujourd'hui, une jeune étudiante en la personne de Dorothée Stick. Bonjour Dorothée. Quelles études avez-vous entreprises ?
Bonjour, alors j'ai effectué 2 années de classe préparatoire littéraire. J'ai ensuite intégré l'école normale supérieure. Donc je suis actuellement en 2e année à l'école normale supérieure et parallèlement en 4e année à l'Institut d'études politiques de Paris.
Alors toutes les trois, nous allons évoquer ensemble les femmes et les lettres au XVIIe, XVIIIe, et en abordant aussi un peu quelques années du grand XIXe siècle, et en nous appuyant, en faisant référence à un texte qui fait partie des publications de 1999 de l'Institut de France. Claude Dulon-Saint-Denis, que peut-on dire de l'instruction que recevaient pendant le XVIIe siècle les petites filles et les jeunes filles de cette époque ?
Alors, ça dépend un peu du milieu social où elles étaient. Mais il ne faut pas croire que le milieu social le plus élevé était le plus favorisé parce qu'il obéissait, au contraire, à beaucoup de contraintes. D'une certaine façon, les jeunes filles de l'aristocratie ou de la haute bourgeoisie étaient beaucoup moins libres que les femmes du peuple qui pouvaient exercer un métier. Alors, les autres ne pouvaient pas, mais généralement, on les instruisait chez elles ou... Au fur et à mesure que les couvents se sont développés, elles allaient au couvent où naturellement l'instruction était très contrôlée dans son esprit, mais tout de même a joué un rôle capital pour l'alphabétisation des jeunes filles.
On apprenait scrupuleusement à lire, écrire, compter. On apprenait aussi ce que l'on entendait par morale chrétienne. Et vous dites, dans les couvents, on ne savait peut-être que ça, mais ça, on le savait.
On le savait très bien. Et les auteurs chrétiens, si je peux me permettre, sans offenser ceux d'aujourd'hui, écrivaient beaucoup mieux qu'aujourd'hui parce que c'était un débouché énorme, justement, que l'instruction des enfants à l'époque pour l'Église.
Et vous insistez sur, justement, l'expression écrite. Vous dites les religieuses de l'Ancien Régime attachaient une importance extrême à cette expression écrite, ce qui a été important ensuite pour le développement de la littérature féminine.
Extrême, et puis c'était presque tout, n'est-ce pas ? Il n'y avait pas de science, on n'étudiait pas les sciences exactes, on n'étudiait que des textes, qui étaient généralement de... Fénelon donne un bon exemple de ce qu'un grand, une grande plume pouvait faire pour l'instruction. Et il y en a eu d'autres, comme ça, un degré moindre. Alors oui, une jeune fille qui sortait du couvent savait très bien écrire, oui, en général.
Dorothée Stick.
Oui, par ailleurs, on a souvent l'image de femmes de salon entourées de beaux esprits et maîtresses dans l'art de la conversation. Qu'en était-il réellement ? Quelle relation les femmes entretenaient-elles avec les milieux littéraires au XVIIe et XVIIIe siècle ?
Alors, il y avait un milieu littéraire qui était le salon, qui a une immense importance, mais où, évidemment, qui était réservé à, quantitativement, un petit nombre de femmes. Mais son importance a été énorme parce que le prototype, l'archétype, c'est Madame de Rambouillet. Naturellement, on apprend ça en classe, qui avait été un petit peu dégoûtée par l'atmosphère de la cour d'Henri IV, qui qu'elle trouvait pas très raffiné, à l'image du roi, qui était un grand roi, mais effectivement pas très raffiné. Et elle a créé un salon où on respecterait à la fois les règles du savoir-vivre et celles de la langue et du bon goût et de l'éducation. Et c'est elle vraiment qui a lancé la mode et qui a pris énormément, car il n'y a pas eu que les salons aristocratiques, après Sévigné, Lafayette, etc. Il y avait aussi des salons bourgeois.
Donc, dans ces salons, on découvrait, les femmes découvraient la littérature profane, les romans, la poésie, les comédies, la mode, la conversation, le dialogue, les jeux d'esprit.
Absolument, d'autant plus que les écrivains qui n'étaient pas une classe très considérée comme aujourd'hui étaient ravis d'être reçus dans les salons et les femmes pouvaient faire beaucoup pour leur réputation.
Dorothée Stick.
Peut-on parler d'une stigmatisation à l'égard des femmes qui publiaient ?
Absolument, absolument. Ça ne se faisait pas de publier. Au XVIIe siècle, au fond, il y a une contradiction qui est terrible, c'est que seules les femmes d'un certain niveau social étaient capables d'écrire, et c'est les mêmes qui ne pouvaient pas publier sous peine de perdre leur réputation. Madame de Lafayette, qui a écrit quelques chefs-d'œuvre, comme nous savons, n'a jamais avoué être l'auteur de La Princesse de Clèves. Parce qu'on considérait qu'on perdait sa noblesse si on publiait. Même Madame de Sévigné, qui écrivait sans arrêt des lettres, était horrifiée à l'idée qu'une femme de son milieu puisse publier. Oui, ça ne se faisait pas.
Vous dites que c'était non seulement offenser les convenances, mais déroger à sa naissance.
Absolument.
Si bien que les femmes de la bonne société, et qui étaient les seules capables d'écrire et donc de pouvoir publier, eh bien, ne pouvaient pas le faire sous peine de perdre leur place dans leur société.
Absolument, ça ne se faisait pas. Au XVIIIe siècle, ça a changé. Ça a changé au XVIIIe.
Alors le XVIIIe, justement, a connu ce changement, peut-être grâce à Madame de Maintenon.
Et... Non, pas pour la publication. Madame de Maintenon a eu un effet... extrême sur l'éducation des filles, ça nous le savons. Elle a tracé un modèle qui a été suivi dans d'autres pays. Elle a fait beaucoup pour l'éducation des filles, se souvenant qu'elle-même avait été abandonnée au point de vue éducatif à cause des malheurs de sa jeunesse, puisque son père avait été en prison, etc.
C'était donc la création de Saint-Cyr.
C'était la création de Saint-Cyr. Et surtout, elle s'est occupée du sort des filles nobles et pauvres qui étaient complètement abandonnées alors, puisqu'on ne pouvait les envoyer nulle part. Alors ça, c'est énorme, mais Madame de Maintenon est tout à fait hostile à la publication, justement. Ça s'est fait différemment, parce que, par exemple, Madame de Genlis, au XVIIIe, a publié parce qu'elle était pauvre. Elle est très pauvre et que tout de même, ça lui rapportait de publier. Alors là, il y a eu une espèce de besoin social qui s'est fait jour et qui a été mieux accepté.
Alors vous dites que dans les cercles des beaux esprits de l'époque... des hommes étaient favorables à la cause des femmes et du français par opposition au latin des pédants. Expliquez-nous.
Eh bien, oui. Le latin était la langue de la science, de l'érudition. Les savants ne publiaient pas en français. Le discours de la méthode en français a été une révolution qui n'a pas été suivie. D'ailleurs, c'est curieux, on dit encore le cogito au lieu de dire je pense donc je suis, parce qu'il a fallu que Descartes fasse traduire le discours de la méthode en latin pour être reconnu par les grands philosophes. Alors, on trouvait, les femmes ne savaient pas le latin en général, sauf un peu de latin d'église. Alors, au contraire, on trouvait chez elles beaucoup plus de naturel dans la conversation, beaucoup plus de goût pour le français, et elles ont certainement joué un grand rôle pour affiner la langue. Et puis, les auteurs comiques, par exemple Molière, qui auraient eu tendance peut-être à être un peu grivois ou autre, s'en sont abstenus à cause des salons. Donc, certainement, il y a eu là un polissage important qui est dû aux femmes, donc aux salons, puisque c'était elles les maîtresses des salons.
Dorothée Stick.
Par ailleurs, dans leurs ouvrages, quel rôle ont joué les femmes dans la dénonciation de la condition féminine ?
Ah, elles ont joué un rôle, même dans les romans de Mademoiselle de Scudéry, vous voyez ce rôle. Naturellement, il ne faut pas les prendre pour des Simone de Beauvoir, ça ne se faisait pas. Mais elles ont réussi à dire beaucoup de choses en le disant sur un ton assez apaisé, assez calme, Puis elles ont mis leurs héroïnes dans des situations où on voit bien que les malheureuses n'avaient pas d'autre choix que le couvent ou le mariage arrangé. Mais elles sont surtout, sans trop se plaindre, sans trop crier, comme certaines féministes, elles ont mis leurs héroïnes dans des situations qui montraient bien qu'il n'y avait pas d'issue, quelquefois. Par là, elles ont joué un rôle.
Mais pourtant, dites-vous, cette littérature féminine n'avait vraiment rien de subversif.
Oh non, parce que sans ça, elles n'auraient pas pu être publiées ou elles auraient été mises à l'index. Mais le peu qu'elles pouvaient faire, elles l'ont fait, indéniablement. À part celles qui écrivaient uniquement pour survivre. Et encore, Mademoiselle de Scudéry, qui écrivait pour survivre, a été d'une certaine façon assez audacieuse, sous une forme un peu compassée.
Mais la plupart d'entre elles, dites-vous, celles-là même qui, dans leur vie, avaient fait preuve de liberté d'esprit, voire de licence de mœurs, celles-là même qui, dans leurs lettres, ne craignaient pas d'appeler les choses par leur nom, dès qu'il s'agissait d'ouvrages destinés à la publication, elles retombaient dans un certain conformisme.
Ah, oui, sans ça, elles n'auraient pas pu publier.
Alors, il est amusant de voir que des femmes aussi, alors vous parlez de Madame Goethe, la mère du poète, du grand Goethe, qui, elle, s'est opposée justement à cette incursion féminine dans
les
lettres.
Vous voyez, ça c'était tout de même plus tard. C'était au 18e. Madame Goethe, la mère du poète, trouvait absolument scandaleux qu'une jeune femme ose publier. Elle ne le comprenait pas. Elle avait enfanté un génie.
Oui, elle n'aurait pas dû commettre une telle folie.
Une folie, oui.
On parle de folie, alors qu'il s'agissait d'une femme instruite, intelligente.
Oui.
Ça paraissait comme une grande
folie. Sophie von La Roche, je crois. Oui, c'est ça. Elle trouvait qu'elle s'était déshonorée en publiant. La mère de Goethe.
Dorothée Stick.
Si on passe maintenant au 19e siècle, plus précisément, à quelle époque peut-on faire remonter la naissance du mouvement féministe en France ou de ce que certains ont pu appeler un proto-féminisme?
Oui, il vaudrait mieux dire un proto-féminisme. Oh ben le grand nom du 19e, c'est George Sand. Les gens ont été stupéfaits de ces romans, et Dieu sait que maintenant on le fait lire aux petites filles. Enfin, je crois même plus qu'elles le lisent maintenant, mais La petite fadette, c'était vraiment très ennuyeux. Moi, on me l'a fait lire quand j'étais enfant. Mais il y a eu tout de même des romans comme Léla, où indéniablement, là, c'est le cri de révolte.
Je vous lis George Sand. Osez dire que l'amour ne se concevait que total, corps et âme, que les femmes ne devaient pas, ne devaient plus se résigner à ce qu'il en fût autrement et qu'elles étaient donc justifiées à multiplier les expériences pour atteindre au bonheur.
Absolument, oui, elle l'a dit en termes voilés mais très clairs.
C'est Chateaubriand qui s'offusque.
Oh oui, c'est
il y a une anecdote drôle. Amusante.
L'anecdote est très drôle. Chateaubriand et un de ses amis, La Rochefoucauld, avaient été tout à fait choqués par les propos écrits, imprimés de George Sand, et ils trouvaient qu'elle avait du talent, alors ils ont entrepris de la ramener à la raison. Alors ils l'ont convoquée, elle est venue, habillée très simplement, elle avait fait tout ce qu'il fallait pour avoir l'air très convenable, et ils ont entrepris de la chapitrer, mais Chateaubriand avait passé la soixantaine, elle avait 30 ans, elle était assez séduisante, il a complètement oublié ce qu'il voulait lui dire, et il l'a encouragée à continuer dans la même voie, il raconte lui-même ça très drôlement.
Mais néanmoins, George Sand s'est auto-censurée.
Oui, elle s'est
dans une autre réédition. Oui. Elle a coupé les passages sulfureux de son ouvrage.
Oui, ces deux messieurs l'ont convoquée pour la chapitrer, mais elle avait 30 ans, elle était charmante, elle s'était habillée pour la circonstance très vertueusement, ils avaient 60 ans, et Chateaubriand, qui aimait beaucoup les dames, n'a pas résisté. Et il écrit lui-même très drôlement « Je n'eus pas plutôt jeté les yeux sur la pécheresse que le cœur me manqua. Je fus saisi de la crainte du ridicule dont un sermon mal écouté m'allait couvrir. Je dis tout le contraire de ce que je devais dire. Inspiré par le malin esprit dont la coupable m'avait sans doute communiqué le souffle, je l'invitai effrontément à persister dans son système. Madame Sand parla peu à ce tribunal de la pénitence où elle m'avait rendu apostat, tandis que le vicomte Sosthène de La Rochefoucauld l'a foudroyé de son éloquence. »
Un Chateaubriand donc transpercé par le charme de George Sand.
Qui lui dit de continuer au lieu de lui dire de s'arrêter.
Claude Dulon-Saint-Denis, Dorothée Stick, merci d'avoir partagé ce temps de parole avec nous au micro de Temps contre Temps. Merci, au revoir.